De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Je vous invite à la prière d'abord. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cette parole qui est la vérité, cette vérité qui nous transforme, qui nous conduit vers Jésus, vers toi, vers la vie. Et nous voulons te demander ce matin de nous conduire vers Jésus, vers la vie. Et aussi de nous transformer par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Alors, la société tout entière a des attentes des chrétiens. Alors, même si ces attentes ne sont pas toujours réalistes ou en adéquation avec ce que la Bible décrit comme une vie chrétienne normale. Parce que la Bible ne dit pas que les chrétiens deviendront du jour au lendemain des saints irréprochables. Elle nous dit que le péché restera présent dans notre vie, tout au long de notre vie. Pourtant, la société a raison d'être scandalisée par moments. On pense en ce moment aux affaires de pédophilie dans l'Église catholique. C'est vrai que ces affaires sont profondément choquante et perturbante. Alors j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Si une entreprise devait mettre la main sur un de ses employés en train de vider la caisse du magasin, elle ne le transférerait pas d'agence en agence, de magasin en magasin pour résoudre le problème. Une entreprise séculière prendrait des mesures nécessaires pour discipliner, pour renvoyer cet employé. » Dévoyé. Et la société s'attend à ce que l'Église, ses ministres, ne se comportent pas d'une manière moins convenable qu'eux. Alors en disant ça, je ne cherche pas à casser du sucre sur le dos de l'Église catholique. Tant s'en faut parce que les dénominations protestantes ou évangéliques ont leurs problèmes, ont connu leurs scandales aussi. Mais cet exemple nous montre de manière on ne peut plus claire que l'attente de nos concitoyens, c'est de voir mieux. Ils s'attendent à ce que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, disciples de Jésus-Christ, pratiquent ce qu'ils prêchent. Les chrétiens qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent sont une pierre d'achoppement pour beaucoup. Alors, il se peut que vous soyez au culte ce matin parce que vous enquêtez un peu sur le sens de la foi chrétienne, message de la Bible. Et cette question de l'hypocrisie des chrétiens, c'est peut-être l'une de vos questions brûlantes. Alors même pour ceux qui se disent chrétiens, l'incohérence des chrétiens peut nous décevoir et miner notre confiance, miner les fondements de notre foi. Alors sur un plan personnel, notre propre incohérence, nos luttes, nos péchés, nos souffrances peuvent nous décourager, nous laisser avec un sentiment d'échec, de culpabilité, et d'une médiocre estime de soi. Alors, cette petite lettre de Paul à Tite, que nous allons étudier le dimanche matin et aussi le jeudi soir au mois d'août, s'attaque à la question de la cohérence entre la foi proclamée et la foi vécue. Mais attention, j'espère qu'on va bien voir dans les semaines à venir que Paul n'a rien d'un prédicateur légaliste, culpabilisateur, moralisateur, ou pastoralement lourd. Mais en même temps, Paul vise haut. Il n'est pas défaitiste, pessimiste ou démobilisateur. Il veut que la foi chrétienne des jeunes chrétiens de Crète fleurisse et qu'ils portent beaucoup de fruits. Alors, on va voir ce matin, dans un premier temps, que l'évangile de Dieu produit de bons fruits. En fait, la vie heureuse, la vie qui plaise à Dieu, la vie de sagesse produit de bons fruits. Et dans un deuxième temps, troisième temps aussi, nous allons enquêter sur le comment et le moyen. Alors, d'abord, cette vie heureuse, cette vie de sagesse, cette vie qui plaise à Dieu. Alors, Paul écrit cette lettre à Tite, qui se trouve sur l'île de Crète. Tite est un implanteur d'église qui travaille avec l'apôtre Paul dans l'équipe apostolique de choc. Et il est là sur l'île de Crète. Donc, j'imagine que bon nombre d'entre vous ont déjà passé, vous avez déjà passé des vacances sur l'île de Crète. Donc, je vais vous épargner mes photos de vacances de là-bas, mais ça vaut la peine d'y aller. C'est sympa. Et Tite se trouve là-bas. Et Paul lui adresse la parole pour lui donner des instructions, en fait, les instructions de mission pour ce qu'il a à faire là-bas. Alors, la forme des lettres de cette époque ressemble davantage à la forme de nos emails que nos lettres. Il y a plusieurs lignes. Il y a la ligne de celui qui envoie la lettre, ensuite celui qui va recevoir l'objet de la lettre, et aussi, il n'y a pas la date, en fait, ça c'est un peu la différence. Voilà un exemple, c'est un peu comme, voilà, Sylvain m'écrit à moi, Trevor, envoyez-le, et puis sujet. C'est un peu comme ça dans les premiers versets de cette lettre. Hop, voilà. Au verset 1, nous lisons, de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Parce que Paul veut que nous sachions dès le départ à qui il appartient. Il est l'esclave de Dieu, mais un esclave qui a une noble tâche parce qu'il est aussi l'ambassadeur, l'envoyé de Jésus-Christ. Alors ça ajoute énormément de poids à ce qu'on va entendre. Paul rappelle son mandat, sa charge, et sa charge vient de Jésus lui-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « bof ». C'est l'apôtre Paul qui parle, sans des lubies de l'apôtre Paul. Ce ne sont quand même pas les paroles de Jésus. Non, on ne peut pas dire ça. Les paroles de Paul viennent avec l'autorité de Jésus-Christ. Il va falloir les prendre au sérieux. Au verset 4, nous découvrons que Tite, à qui Paul écrit, est le véritable enfant de Paul dans la foi. Alors, c'est peut-être Paul lui-même qui a amené Tite à la foi. On ne sait pas, mais c'est bien possible. En tout cas, le lien qui les lie est fort, presque parental. Et l'objet de la lettre, le sujet, Paul parle de sa mission. Parce que c'est également la mission de Tite. À la fin du verset 1, nous lisons, « J'ai été chargé d'amener à ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Alors, son habitude, les idées de Paul sont construites de manière précise et dense, et on voit les notions de la foi des chrétiens, la connaissance de la vérité, une connaissance qui est conforme à la piété et la vie éternelle. Alors, ces idées sont au cœur de cette petite lettre. Et dans les semaines à venir, on va les voir en plus de détails. Mais je veux qu'on commence à déchiffrer cette mission ce matin, parce qu'il nous aidera à comprendre la portée, le sens de toute l'épître. Le grand souci de Paul dans cette lettre est de voir ces jeunes églises sur l'île de Crète fleurir et grandir. Il veut qu'ils vivent un christianisme cohérent, où la foi proclamée est véritablement mise en pratique. Paul est convaincu que lorsque la vérité de l'Évangile est bien établie dans le cœur du croyant, bah les bons fruits s'en suivent. C'est pour ça qu'il parle d'une connaissance de la vérité qui est conforme ou qui est selon la piété. Alors qu'est-ce que c'est la piété ? C'est un terme un peu religieux, un peu vieillot, qui peut nous faire fuir. Somme toute, c'est une vie qui plaise à Dieu, une vie heureuse, une vie où Dieu se trouve au centre, où il est honoré et aimé. C'est une vie de belles œuvres. Alors ça, on le voit tout au long de cette épître. Donc je vous invite, si vous avez fermé vos bibles, de les ouvrir. Donc c'est un peu chasse au papier pendant quelques secondes. Le chapitre 1 va parler des responsables d'église. Donc c'est le passage qui suit le nôtre de ce matin, celui que François va aborder la semaine prochaine. Et Paul a à cœur de voir les responsables d'église qui mettent en pratique ce qu'ils croient. Et au chapitre 2, verset 7, Paul exhorte Tite lui-même à être un modèle de belles œuvres. Au chapitre 2, verset 14, Paul dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Au chapitre 3, verset 8, Paul dit « Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. » Et l'avant-dernier verset de l'Épître insiste encore une fois là-dessus. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres. Paul est, on ne peut plus clair, il martèle son propos. Nous avons été sauvés en vue de quoi ? En vue de pratiquer de belles œuvres. Cette vie heureuse qui plaise à Dieu. Alors, en parlant de belles œuvres, Paul n'a pas en vue les œuvres religieuses ou de bigoterie ou quelque chose comme ça. Il parle de choses qui découlent d'un amour sincère pour Dieu et sincère pour notre prochain. Des choses pratiques, des paroles, des gestes, des actes qui édifient et qui font du bien. Il y a des enjeux et Paul le voit clairement. Au chapitre 2, verset 5, Paul nous montre que c'est ainsi que la parole de Dieu ne sera pas calomniée. Au chapitre 2, verset 10, Paul est soucieux que notre comportement fasse honneur à l'Évangile. Notre comportement chrétien, c'est un des outils d'évangélisation les plus importants. Quand les chrétiens se comportent mal, c'est toute la foi qui est mise en cause par la société. Ça donne une raison de plus aux gens de dire bah, « ces chrétiens ne sont qu'une bande d'hypocrites ». Mais pire que ça, parce que de toute manière, les chrétiens vont toujours être des hypocrites jusqu'à un certain point. Ou si on le dit plus gentiment, les chrétiens vont toujours être les pardonnés qui ont des progrès à faire. Pire que ça, ça donne l'occasion aux gens de dire que la parole est inefficace, impuissante, ou qu'elle ne vient pas de Dieu. C'est la crédibilité de l'Évangile qui est en jeu. Il y a beaucoup de philosophies et de façons de voir le monde. On peut penser au communisme qui essaie de rendre la société plus juste en changeant notre rapport au capital. Ou le libéralisme qui essaie de transformer la société, transformer l'homme en minimisant le rôle de l'État. Ou l'écologie qui essaie de sauver la planète en nous changeant, en changeant notre comportement. Et j'en passe. Les fruits de ces philosophies sont plus ou moins mitigés, je pense. Et la question qui se pose est de savoir si la parole de Dieu, l'Évangile, est simplement une philosophie de plus. Une doctrine qui serait sans puissance ou incapable de produire de bons fruits. Parce que Paul dit que cet évangile vient de Dieu. Mais s'il ne produit que de mauvais fruits, s'il ne produit que la haine, la jalousie, le vol, le meurtre, les disputes, qu'est-ce qu'on va dire au sujet de son auteur ? Paul ne veut pas que la bonne nouvelle soit méprisée. Il veut que tout le monde voit quelle est vraiment la parole de Dieu, qu'elle est puissante, efficace, féconde, produisant de bons fruits qui sont dignes de Dieu, conformes à son caractère, les fruits qui plaisent à Dieu. Mais Paul sait pertinemment que ces fruits ne découlent pas du légalisme ou du moralisme. Paul aurait pu se contenter à nous donner toute une liste de choses à faire, des lois, des bornes à respecter, à ne pas outrepasser. Il aurait pu menacer les chrétiens de Crète avec des sanctions, leur parler sur un ton culpabilisateur, sans référence à ce que Jésus a fait. Mais cette approche-là n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est vrai, on l'entend trop souvent dans nos églises, mais elle n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. La semaine dernière, nous avons parlé de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si on est libre, on ne se remet plus sur un joug de règles, de réprimandes, de menaces pour parvenir à la vie qui plaise à Dieu. Ce n'est pas ça ce qui va créer ces bons fruits qui plaisent à Dieu. Ça crée plutôt des hypocrites qui font semblant, qui se conforment extérieurement à des règles, à des traditions, sans que le cœur y soit. Cela crée des chrétiens qui agissent par peur d'être rejetés, qui se découragent quand ils n'y arrivent pas, qui sombrent dans des espoirs, qui finissent par en vouloir à Dieu et à lâcher du lest sur le plan moral, produisant de fruits qui ne sont pas dignes de Dieu. Alors que fait Paul ? Comment est-ce que l'évangile produit ses bons fruits ? Nous sommes à la deuxième partie. Oui, mais comment ? Alors, au verset 1 et 2, Paul dit que c'est son but d'amener les chrétiens à la foi et à une connaissance de la vérité, et que ces choses-là se reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Le moteur, si je puis dire, le moteur de la vie qui plaise à Dieu, cette vie heureuse de sainteté, est l'espérance de la vie éternelle. L'avenir est un de nos moteurs fondamentaux, une de nos motivations primaires. Nos actes du présent sont le plus souvent déterminés par notre perspective de l'avenir. Si on a invité des amis à manger, on s'y prépare dans le présent, on fait des courses, on fait le ménage peut-être. S'il va pleuvoir, on prévoit d'aller au parc, au cinéma plutôt que d'aller au parc. Steven. Si on veut avoir une belle carrière, on fait des études, on travaille nos classes prépa. Si on a été invité à l'Élysée, on dépose notre costume au pressing avant. La connaissance de la vérité dont Paul parle ici, c'est la vérité selon laquelle Jésus peut nous donner, peut vraiment nous donner la vie éternelle. La semaine dernière, nous avons chanté un cantique que j'aime beaucoup. C'est le cantique qui s'appelle « J'ai l'assurance ». Donc je cite « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Sans m'a lavé, m'a racheté en l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé, sûr de ton amour. » Alors pour certains, cette assurance, l'assurance de son salut peut sembler un peu suspecte, un peu arrogante. Comment peut-on prétendre que Dieu nous acceptera avec une telle assurance, avec une telle certitude, la certitude qui va nous donner la vie éternelle? Alors, au chapitre 2 et 3, Paul va parler non pas de notre performance, mais de ce que Christ a fait, de la vérité de l'Évangile. Il va parler de la grâce, on va voir ça dans les semaines à venir. Il va dire qu'en vertu du sacrifice de Jésus à la croix, tout homme et toute femme qui se fie à Jésus est déclaré juste aux yeux de Dieu. Et ça, quel que soit le nombre de ses fautes, de ses péchés ou de ses crimes. L'image, c'est celle du tribunal. Ceux qui se détournent de leur vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu et qui se fient à Jésus, ceux qui confessent leurs fautes à l'égard de Dieu et mettent la confiance en le sacrifice de Jésus, bah Dieu les déclare justes. Dieu les gracie. Dieu les renvoie libres du tribunal. Et ce qui est plus, Dieu ne reviendra jamais sur sa décision. Il n'y a pas de recours, pas de condamnation en appel. C'est pas comme si un jour Dieu nous pardonne, il nous pardonne tout, et puis le lendemain, parce qu'on a fait une bêtise de plus, qu'on se retrouve dans le collimateur de Dieu et qu'on doit avoir peur et qu'on doit payer pour ce qu'on vient de faire. Non, c'est là où l'évangile est vraiment radical, et là où l'évangile nous rend vraiment libres, et on effraie plus d'un, c'est que le chrétien est blanchi, il est acquitté, il est déclaré juste, couvert de la justice de Jésus, à vie, pour l'éternité. Si moi je pêche demain, je ne suis pas moins aimé ou accepté qu'aujourd'hui ou qu'hier. Et surtout, je n'ai rien à faire de plus pour redevenir l'ami de Dieu, car de toute façon, je n'aurai jamais cessé d'être l'ami de Dieu. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, Dieu, quand il vous voit, voit Jésus-Christ. Vous êtes caché en lui. Et à chaque moment de votre parcours, pendant les hauts et aussi pendant les bas, les moments plus sombres, les moments dont nous avons peut-être honte, il continue de nous voir cachés en Jésus, à nous traiter comme il traite Jésus. Et cela veut dire que la vie éternelle n'est pas un vague espoir pour le chrétien. Nous pouvons chanter de tout cœur « J'ai l'assurance de mon salut et parfait repos et parfait bonheur en toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. » Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté ou de la confiance en soi, c'est la confiance en Jésus, en sa justice. Si ça dépendait de nos efforts, la perfection de notre foi ou de nos actes, ça serait vraiment un vague espoir, ou pas d'espoir du tout. Et c'est pour ça qu'une longue liste de règles ou de prêches légalistes ou moralisateurs qui exhortent le chrétien à faire sans référence à la croix et à la grâce, ça nous décourage. Ces choses détruisent notre confiance devant Dieu. Parce qu'on sait, on ne sera jamais à la hauteur de Dieu. Mais l'assurance de la vie éternelle, parce qu'elle ne dépend pas de nos efforts, parce qu'elle nous a déjà été acquise par Jésus-Christ, ça nous encourage, ça nous édifie, ça nous mobilise à vivre pour celui avec qui nous allons passer l'éternité. On va passer à la troisième partie. Par quels moyens ? L'espérance de la vie éternelle est le moteur de la vie qui plaise à Dieu. Mais comment savons-nous que nous avons la vie éternelle ? Versets 2 et 3. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise, c'est-à-dire la vie éternelle. Il avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée, donc confiée à Paul, sur ordre de Dieu notre Sauveur. Bien sûr, dans un sens, il a révélé en Jésus-Christ, en sa vie, en sa mort, en sa résurrection. Mais il a rendu clair, il a rendu manifeste aux yeux des chrétiens sur l'île de Crète. Comment ? Mais par la prédication de Paul. C'est le message de Christ crucifié à notre place que Paul a prêché de ville en ville. Et c'est ça ce qui a révélé que nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est le moyen par lequel cette vie éternelle est devenue une réalité pour nous aussi, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'était en écoutant, en entendant le message de la croix et de sa grâce que nous avons été amenés à mettre notre foi en Jésus. C'est l'essence par laquelle le moteur tourne. C'est la sève qui fait croître la plante. D'où l'importance de la prédication, de l'annonce de la parole, de l'étude de la parole, du partage de ce message de vie dans nos conversations centrées sur Jésus. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Lorsqu'on annonce la parole de Jésus, on est en train d'annoncer le message de vie. Et plus que cela, celui qui peut donner la vie. Paul en est plus que convaincu. C'est pour ça qu'il va revenir sans cesse dans cette petite lettre à Jésus, à la croix, au pardon, à la grâce, à la justification, à cette promesse de la vie éternelle. Alors si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à la foi, j'espère que vous voyez l'enjeu de ce que Paul dit. Cette parole parle de la vie, de la vraie, de l'éternelle. Alors l'apôtre Paul n'est pas arrogant, il n'est pas imbu de lui, il n'est pas un illuminé qui aurait perdu la tête, il est très sobre. Et il dit que la vie en Christ, la vie éternelle, est révélée dans ses propres paroles. C'est vraiment fort. Ce qu'il dit est vraiment époustouflant. Mais c'est pour ça que ça vaut la peine de vraiment prendre au sérieux, de lire, de prendre le temps de lire et de peser ce qu'il a à dire. Mais pour tous ceux qui ont déjà mis leur confiance en Christ, on a besoin d'entendre et de réentendre cette parole. Paul sait que les chrétiens ont besoin d'être immergés de plus en plus dans cette parole, s'ils vont porter des fruits, si l'espérance de la vie éternelle va briller clairement en eux. Parce que bien des fois, disons-le, elle ne brille pas clairement. On l'oublie, on la met en cause, on doute. Sans le savoir, parfois, nous croyons des mensonges qui vont à l'encontre de cette espérance, de ce message de la vie. On a parfois du mal à cerner le fait que nous sommes vraiment pardonnés par Dieu. On a du mal à saisir, à croire le fait que nous sommes réellement déclarés justes, qu'on est vraiment devenus les amis de Dieu, que nous sommes pleinement acceptés par lui. Quelles que soient nos défaillances quotidiennes, nos fautes et nos manquements. Et la parole qui déclare la grâce, qui nous montre notre assurance de la vie éternelle, c'est elle qui défait petit à petit les mensonges que nous avons crus. Elle illumine notre foi, elle la peaufine, elle débusque les idoles de nos cœurs, les attachements malsains. Elle nous ramène sans cesse à la repentance et à la foi libératrice. Nous avons besoin d'y revenir régulièrement et souvent de la méditer et d'inviter nos cœurs à y croire, à la croire. Nous avons besoin de demander à Dieu de peaufiner notre foi, de nous aider à lui faire confiance, à croire sa parole, plutôt que la parole des hommes, ou plutôt que la parole de nos cœurs, parfois ces mensonges que nous avons crus. Paul a envie de voir des petites communautés parsemées partout en Crète, brillant avec l'espérance de la vie éternelle. Car il sait que cette espérance, et cette espérance-là, qui portera beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Il veut que chacun des chrétiens sache dans le fond de son cœur que grâce à Dieu, il a l'assurance de la vie éternelle. Et personne ne peut l'arracher de ses mains. Au fur et à mesure que nous saisissons la réalité de notre espérance, le moteur s'enclenche, l'essence brûle et l'engin, la machine de la vie qui plaise à Dieu, se met en marche. Je vous invite à la prière. On va prier.